France Musique.
Bonjour Roberto Alagna.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin.
C'est gentil,
sur France Musique.
Merci de me recevoir.
Entre deux représentations de Don Carlo de Verdi, c'est à l'Opéra Bastille à Paris, vous y chantez jusqu'au 11 novembre, mm-hmm. et ce sera le 14 décembre sur France Musique. À la fin de la semaine sort votre nouvel album, très attendu, Caruso 1873,
oui.
chez Sony. On va écouter un premier extrait, on en parlera ensuite, mais d'abord, j'ai l'impression, Roberto Alagna, que ce projet-là est particulièrement important dans votre cœur et que vous ne l'auriez pas forcément réalisé il y a 10 ou 15 ans, par exemple.
En fait, c'était un projet que je devais réaliser il y a 10 ans, exactement. Et j'avais même fait un concert au Théâtre des Champs-Élysées ou avec des amis où je présentais un petit peu une soirée Caruso, hommage à Caruso. Et donc, j'avais commencé à enregistrer. J'avais enregistré 10 titres à l'époque. Et lorsque j'ai réécouté, j'avais trop imité Caruso. En fait, j'avais imité jusqu'à ses défauts vocaux, puisqu'on a tous des tics vocaux. C'est pas des défauts, c'est des tics qui font la personnalité de chacun. Mais à partir du moment où vous imitez, c'est ce que font les imitateurs. Ils choisissent la caractéristique d'un chanteur et d'un ou de quelqu'un dans la voix, les tics vocaux, etc. Et on arrive à l'imiter. Et donc, du coup, on reconnaissait plus ma voix. J'étais allé trop loin dans l'imitation. Et donc, j'ai laissé tomber le projet. Je l'ai laissé mûrir en moi, puisque c'était un projet que j'avais envie de faire depuis très, très, très longtemps. Et là, je crois que le moment était venu. C'est curieux parce qu'en fait, Caruso, lorsqu'il a enregistré son dernier titre, il avait 47 ans. Donc, quasiment 10 ans de moins que moi aujourd'hui. Et voilà. Mais bon, il m'a fallu être 10 ans plus vieux que lui pour pouvoir digérer sa façon de chanter, son expression, son phrasé. Et voilà, et aujourd'hui je suis très content parce que je crois qu'on a vraiment un enregistrement qui est fidèle, qui est vraiment un hommage au style Caruso, mais je garde mon identité.
Alors on va en parler, on va le parcourir cet mm-hmm. album. C'est extrêmement vaste comme répertoire, mm-hmm. mais j'ai choisi pour commencer, si vous voulez bien, Roberto Alagna, une chanson napolitaine.
Ah, très bien.
Mare luccica l'astro d'argento, placida l'onda, prospero il vento. Sul mare luccica l'astro d'argento, placida l'onda, prospero il vento.
Sulla nave, su voce, c'è.
dire moins bien que vous, Santa Lucia,
oui,
de Théodore Cottereau.
Oui, oui, oui.
Et chanson napolitaine.
Oui, et en fait, c'est curieux parce que c'est pas une chanson napolitaine puisqu'elle est chantée en italien.
Mais bon, une fausse chanson napolitaine.
Oui, mais c'est toujours dans la veine napolitaine.
Avec l'Orchestre National d'Île-de-France dirigé.
C'était une très belle chanson. Et ce qui est curieux, c'est que cette chanson a été on dirait aujourd'hui un tube à l'époque. Et puis elle a traversé les époques et tout le monde s'en est emparé jusqu'au grand de la pop. Et voilà, donc je suis ravi d'avoir aussi participé à relancer encore cette chanson.
Alors, Roberto Alagna, comment vous avez découvert la voix d'Enrico Caruso? Quels sont vos premiers souvenirs?
Bah, les premiers souvenirs, ce sont les histoires que me racontait mon arrière-grand-mère, puisque j'étais enfant et j'entendais ces histoires d'Amérique, de mon arrière-grand-père, Mr. Jimmy, qui était ténor, qui connaissait Caruso, elle l'avait rencontré aussi, puisque c'était sa femme, et donc ils allaient à ses spectacles, mon arrière-grand-père avait fait une audition pour lui, donc j'avais toujours dans mon imaginaire ce personnage qui venait comme une sorte de membre de la famille, et puis ensuite j'ai découvert le film Le Grand Caruso avec Mario Lanza, et là c'est curieux, j'ai eu l'impression que cet homme qui incarnait Caruso sur l'écran était mon arrière-grand-père. Voilà, donc j'ai un peu fait un transfert affectif et ensuite il m'a accompagné pendant toute ma vie parce que à partir du moment où j'ai commencé vraiment à m'intéresser à l'opéra, ensuite quand on m'a dit que j'étais un ténor, ben j'ai commencé à écouter énormément Caruso. J'avais mon vieux prof Raphaël Ruiz qui tous les dimanches c'était sacré, c'était notre rituel. Il fallait qu'on écoute tous les enregistrements de Caruso, qu'on en parle, qu'on dissèque, qu'on analyse. Voilà, donc c'est un chanteur qui m'a accompagné tout le temps et plus je le travaille, plus je l'écoute, plus je le dissèque, plus je m'aperçois de sa grandeur, de sa supériorité par rapport à tous les ténors de tous les temps.
Qu'est-ce qu'il a de plus grand, qu'est-ce qu'il a de supérieur et en quoi Roberto Alagna il a ouvert la voie, sans mauvais jeu de mots, VOIE, VOIX?
Bah déjà, il a une particularité, c'est qu'il a beaucoup de personnalité dans sa voix. Il a du caractère et il a quelque chose, une larme dans la voix, il a quelque chose de la tristesse napolitaine par ténope, on dit, et par son bagage d'ordre privé aussi, hein, par rapport à sa maman qui est décédée tôt, la difficulté à Naples, ensuite cette voix qu'il a été obligé de façonner lui-même. Au départ, c'est une voix qui a du mal à aller dans l'aigu et pourtant il sent qu'il a la flamme du ténor, il sent qu'il a la veine de ténor. On lui dit que tu es peut-être baryton et il veut pas être baryton, il veut être ténor. Et voilà, donc il va se façonner une voix avec un instrument qui est un instrument hors du commun. Il a une grande capacité pulmonaire, il a une grande bouche avec une grande cavité, une largeur de palais. Voilà, donc c'est un instrument qui est hors du commun. Et ensuite, il va le façonner et va rendre cet instrument quasiment surnaturel, tout en conservant quelque chose d'humain. C'est-à-dire qu'il chante toujours d'une façon très simple, très spontanée, sans artifice, sans effet, toujours en privilégiant la beauté du son, le confort du son, pour l'auditeur. C'est-à-dire qu'on écoute Caruso facilement. Il n'y a jamais de forçage, il n'y a jamais quelque chose d'exagéré. Voilà, c'est ce qui fait sa supériorité.
Ça fait un style à l'arrivée.
Tout à fait.
Dans le disque, Roberto Alagna, dans le livret, vous dites que vous avez tenu à respecter le style comme on respecte un compositeur, mais sans imiter, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure.
Tout à fait, tout à fait.
En quoi ça consiste?
Ben, ça consiste à adopter son phrasé, d'abord, ses tempi, qui sont des tempi étranges, puisque souvent, imposé par le disque, c'est-à-dire par l'enregistrement lui-même, puisqu'ils enregistraient à l'époque sur de la wax, sur de la cire, et ça durait très, très peu de temps, donc il fallait que le morceau entre dans la cire, sinon c'était gâché. Et donc il y a une sorte d'urgence, une sorte d'énergie qui est formidable, mais qui correspond à son tempérament. Et donc il faut rendre, j'ai voulu garder son tempo, ses respirations, sa façon d'émettre les sons. Quand il, de temps en temps, il modifie.
Il est libre.
Il est libre, mais je crois que c'est le goût de l'époque. Il connaît les compositeurs, hein, il les fréquente. Hein. Il connaît
Puccini,
il connaît Léon Caval, il connaît tous ces gens-là. Chilea, les gens ont composé pour lui, ce sont ses contemporains. Donc c'est comme aujourd'hui lorsqu'on travaille, quand je travaille avec mon frère Cosma ou Cassar ou d'autres, on adapte selon les capacités, c'est-à-dire qu'on fait un costume sur mesure. Ce que faisait Lopez avec Mariano, voilà, c'est un peu ce genre-là. Et donc c'est difficile pour un autre d'entrer dans le costume de quelqu'un d'autre. Vous savez, ce disque, en fait, c'est une sorte de documentaire. qui va être utile aux jeunes chanteurs, je pense, parce qu'on voit l'évolution de la technique vocale à travers les années, à travers un siècle hein, quasiment, et puis aussi de la technologie d'enregistrement. Parce qu'on commence par exemple ce disque avec l'air de Lucho Dalla, qui est un air moderne, pop, donc dans une sonorité pop, et on finit avec un air napolitain, emblématique du ténor napolitain Caruso, dans les mêmes conditions, c'est-à-dire avec un son qui est un petit peu, il manque que les petits...
Voilà.
Mais tout y est, voilà. Et on va évoluer jusqu'au son d'aujourd'hui. Voilà, c'est très intéressant comme travail.
Ben je vous propose de l'écouter quelques instants. Dominique Deus de la petite messe solennelle de Rossini. C'est même le dernier enregistrement.
Oui, c'est le dernier enregistrement. Enfin, c'est le dernier jour d'enregistrement puisqu'il a enregistré un autre morceau de la petite messe solennelle juste après. Donc c'est l'avant-dernier enregistrement.
1920. Voilà.
Mais c'est le dernier jour.
1920, un an avant sa mort.
Voilà.
Domine Deus de la petite messe solennelle de Rossini, qui est à écouter dans votre interprétation, dans votre version sur le disque Caruso.
Voilà.
Quand vous l'écoutez, la voix de Caruso, ici, à la fin de sa vie, il est mort très jeune. Hein.
Oui, 47 ans. Oui, oui.
Qu'est-ce que vous ressentez?
Moi, quand je m'aperçois que j'ai lu des tas de choses sur Caruso, des critiques où on l'a massacré en disant qu'il était terminé, qu'il était fini, que c'était plus la voix d'avant, enfin, ce que tous les ténors et tous les chanteurs vivent quotidiennement. Ce que je vis moi aussi depuis des années, on s'aperçoit qu'en fait la voix était d'une fraîcheur et d'une santé insolente et que c'est injuste. Ensuite, quand on voit aussi les doutes qu'avait cet homme, qui était quand même le plus grand ténor de tous les temps, quand on lit la correspondance avec sa dernière femme, Dorothy, il dit à un moment, aujourd'hui, ce soir, j'ai appris à chanter avec Radamès en chantant Aïda. C'est fabuleux, il a déjà une carrière conséquente et il dit encore, je viens d'apprendre à chanter. Ensuite, il y a des doutes parce qu'un soir ça passe pas, un soir ça craque, et un soir il est obligé. Voilà, donc c'est le quotidien du ténor qui est toujours en train de remettre son titre en jeu et qui doute chaque soir. Il sait que tous les soirs il peut tomber pour une note. Voilà, c'est le lot de cette profession, de cette discipline.
Roberto Alagna, vous nous dites à quel point Caruso est grand pour vous, mais est-ce qu'il n'y aurait pas aussi une certaine identification? Il est né d'un milieu modeste comme vous, il a même commencé dans les cafés, dans les restaurants.
C'est vrai qu'il y a quelque chose qui nous unit, les destins sont liés quelque part, mais ce qui me touche le plus, c'est le passage de flambeau, c'est-à-dire après Caruso, c'est Gilles, donc il passe le flambeau à Gilles, et après Gilles, il arrive les Corelli, les machins, enfin tout le monde, et jusqu'à Pavarotti, et puis après moi, et puis d'autres viendront. C'est comme si les ténors, je mets vraiment les ténors à part, hein, dans toutes les catégories, parce que c'est vraiment, c'est un instrument spécial, le ténor, c'est une voix qui n'existe pas, il y a deux siècles, et qui est une sorte de mutation. Donc les ténors entre eux sont très... il y a seulement le ténor, c'est ce qui se passe chez un ténor. Voilà. Donc il y a un passage de flambeau, et ça me plaît énormément. C'est ça qui me touche énormément. C'est le premier ténor moderne, c'est le premier à faire des grands succès discographiques, c'est le premier qui s'intéresse à l'enregistrement, c'est le premier qui est un petit peu, comment dire, people à l'époque, c'est le premier qui casse toutes les théories, toutes les règles, voilà, c'est ça qui est formidable.
Alors, sur ce disque, il y a des raretés, par exemple Néron de Rubinstein.
Oui. Ça, j'adore.
Qui chante aujourd'hui Néron dans
Rubinstein. Oui, personne. On chante toujours Le Démon de Rubinstein, mais personne ne chante j'ai essayé pendant longtemps de convaincre des directeurs de théâtre de monter Néron, mais c'est très difficile parce que il y a à peu près une quarantaine de personnages. C'est vraiment un péplum, hein. Mais la musique est vraiment très très belle, l'histoire aussi. Je pense que c'est dommage de ne pas créer cette œuvre. En plus, elle est écrite en français, hein, donc par un russe, mais en français. Et Caruso le chantait et l'a même enregistré deux fois de suite, puisque c'est curieux. Donc, quand il était content, peut-être d'un air, il savait pas comment choisir et il mettait les deux. Donc, quand on voit la discographie intégrale de Caruso, il y a les deux Néron qui s'enchaînent le même jour.
Et puis, plus connu, Manon de Massenet, mais
oui,
en italien.
En italien.
Chiudo gli occhi e nel pensiero allora la giumaletta, piccola casetta bianca in fondo al bosco nero, là sotto al placido ruscelli chiari ben, ove specchiasi il trascome, canta beato asile manno manchi ora conosco vi manco ancor ma no tal la nostra Se tu lo vuoi, oh, ma no.
Jules Massenet, Manon. Cudi Leo qui en fermant les yeux, extrait du deuxième acte de Massenet. Ici, c'est parce qu'il y a aussi du piano voix oui. sur ce disque, ici avec Yvan Cassar. C'est aussi une époque où on s'embarrassait moins de. On chante en italien, on chante en français.
Oui,
il y avait cette liberté-là.
Oui, il y avait cette liberté parce qu'en réalité, c'était le goût de l'époque. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on fait la version en. Avec piano de 1902, c'est-à-dire le premier enregistrement de Caruso. Hein, les tout débuts. Il est à peine trentenaire. Je crois qu'il a pas encore 30 ans. Et donc en italien, puisque on chantait ces versions-là au Met en italien. Mais ce qui est curieux, par exemple, c'est qu'il chantait Lenski en français. Voilà. Mais Les Pêcheurs de Perles, il faisait en italien. Ensuite, il l'a fait aussi en français. Et c'est une œuvre qu'il a chantée souvent, mais on n'hésitait pas à l'époque à transposer pour rendre le chant plus aisé, plus facile.
Roberto Lania, on vient de l'entendre sur ces extraits. Il y a un soin sur cet album qui est apporté à la prise de son.
Oui.
On entend cette musique comme on ne l'entend pas d'habitude sur des disques qui sortent en 2019.
Oui, c'est difficile parce que à l'époque, la voix donc est captée par un cornet, hein, donc très très proche. Et les instruments sont derrière. D'ailleurs, les instruments, par exemple, à cordes, ne s'entendent pas très bien. Donc, on remplace les instruments à cordes par des cuivres. Du tuba, des trombones, enfin, on rajoute beaucoup de cuivres. Et ce qui donne cette couleur. Et c'est ce qu'on a fait avec Yvan Cassar. On a remplacé les cordes par des cuivres, on a essayé de retrouver la couleur. Voilà, donc c'est déjà un son spécial. Ensuite, il faut... aujourd'hui, on n'est pas habitué à entendre... c'est presque agressif comme son. Parce que à l'époque, si la voix est proche, il y a quand même le vieux son qui mélange tout ça et qui rend tout ça, voilà, un peu surnaturel, pas naturel. C'est comme s'il y avait un travail. Donc, il a fallu essayer de retrouver ce surnaturel, tout en sachant qu'aujourd'hui les micros captent une voix beaucoup plus naturellement. Donc, c'est difficile d'aller vers ce son-là. D'ailleurs, quand on entend le dernier enregistrement que j'ai fait, donc le Tukanunkiang, dans les conditions, on voit que la voix est un petit peu transformée. Et ça, c'est comme si on chantait dans un cornet. Il y a un son qui n'est plus aussi naturel.
Roberto Alagna, les excellents micros de France Musique enregistreront donc Carlo, la version italienne de Verdi. C'est en ce moment à Bastille, vous chantez jusqu'au 11 novembre, mise en scène de Christophe Warlikowski. Franchement, vous préférez chanter comment, en italien ou en français? C'est quoi la différence pour vous?
J'aime les deux. J'ai eu la chance de chanter, même si j'ai chanté très peu de Don Carlo dans ma carrière, mais j'ai chanté toutes les versions. Donc j'ai commencé par la version française que j'avais fait au Châtelet il y a 25 ans et ensuite j'avais repris au Covent Garden et ensuite j'ai fait la version italienne au Metropolitan des années plus tard, il y a une dizaine d'années. Après j'ai fait la version en 4 actes à Vienne, voilà, et là je me retrouve avec la version italienne, la version moderne qui est encore une autre version, il y a plusieurs versions. Donc j'aurais chanté toutes les versions. Moi j'aime les deux parce que l'italienne, il y a un côté plus dramatique, plus large par rapport à la sonorité de la voix, de la langue qui s'ouvre beaucoup plus. Io vengo a domandar grazie alla mia regina. C'est beaucoup plus large que je viens solliciter de la reine une grâce, qui est beaucoup plus pointu dans la langue et qui fait que la voix est beaucoup plus canalisée. Et donc en français, c'est presque plus contrôlé. Ça permet de... On peut chanter la version française plus jeune, alors que la version italienne, elle devient lourde. Donc voilà, mais je suis heureux, mais on s'aperçoit aussi que bien sûr, l'original, ça reste le français, puisque des fois, il y a des décalages dans la prosodie qui ne fonctionnent pas. Mais bon, Verdi, c'est un génie et il a réussi à rendre tout ça magnifique.
Vous êtes sur scène avec une certaine Alexandra Koujak, votre épouse,
oui, j'ai beaucoup de chance.
Qui vous rejoint d'ailleurs sur deux airs de cet album Caruso. Il y a aussi un trio. Et puis, il y a une chose étonnante, il y a une bohème où vous chantez un air plutôt chanté par des barytons basses d'habitude.
C'est plutôt par une vraie basse, oui.
Une vraie basse.
L'air de Colline. Et donc, c'est un air aussi surprise, mais pas tant que ça. Les gens qui connaissent Caruso connaissent la légende. Il paraîtrait que Caruso aurait remplacé un collègue à Faune à ce moment-là et il aurait chanté cet air de dos. Et les gens ne se seraient pas aperçus du superfuge.
La voix de Caruso de 1905 n'est pas celle de 1915, qui n'est pas celle de 1920. La vôtre, comment vous la trouvez changée?
C'est pareil,
ces derniers temps,
en fait, elle ne change pas vraiment. C'est-à-dire que la voix est toujours la même, mais c'est nous qui changeons. C'est-à-dire qu'ils changeons notre goût. Par exemple, quand on est jeune, on veut paraître plus vieux, plus mûr. Et ensuite, quand on devient plus mature, on essaie de paraître plus jeune. C'est comme ça. Et la voix, c'est la même chose. Quand on est plus jeune, comme on a une sorte de force due à la jeunesse, une énergie, on sait qu'on peut aller plus loin. Et souvent, on dénature sa propre voix en essayant de trouver un son plus gros, plus mûr, plus puissant. Et peu à peu, quand on atteint la maturité, on s'aperçoit qu'au contraire, on veut trouver la légèreté, la brillance, la jeunesse, la simplicité. Et chez Caruso, c'est la même chose. Quand on écoute les enregistrements de 1902, il y a toujours la base belcantiste, mais il y a l'énergie de la jeunesse. Et puis peu à peu, il y a la profondeur, la nature. Et ça, c'est émouvant.
L'année prochaine, le Stade de France, Carmen.
Oui.
Vous êtes excité? Vous avez la trouille?
Oui, on a toujours la trouille. Vous savez, dans ce métier, c'est un métier vraiment de trac, de tension, de responsabilité. Là, ce qui me plaît dans ce projet, c'est la démesure. C'est le fait de... On se dit, voilà, on a reçu ce don et c'est pour partager avec le plus grand nombre, avec la multitude. Et bien là, c'est l'occasion. Voilà. Combien de fois les gens m'appellent, m'envoient des messages. Oh, Roberto, on a voulu venir à l'Opéra, à la Bastille, il n'y avait plus de place. On a voulu venir au Met, il n'y avait plus de place. Et donc, ils ont du mal souvent à trouver des places. Ben là, j'ai envie de leur dire, ben venez. Et puis, c'est la beauté du lieu. On a l'impression de se retrouver dans un théâtre ancien à romain, mais avec la technologie moderne. Et voilà. Et puis, j'ai inventé un petit slogan, hein, parce que Carmen, ça reste quand même un miracle. C'est un joyau. C'est un chef-d'œuvre tellement parfait qu'il est miraculeux. Donc, j'ai envie de dire, voilà, si vous aimez les miracles, eh ben, venez au Stade de France.
C'est votre département, d'ailleurs, de naissance.
Oui, oui, puisque moi, je suis né à Clichy-sous-Bois, donc je suis à la maison. Et c'est curieux de l'impression d'être dans le quartier, quoi. Allez, je vais chanter dans mon quartier pour tous mes amis, pour tous ceux qui souvent ont du mal à faire le pas vers l'opéra. Et là, j'ai envie de leur dire, bah, venez, écoutez, voilà, on est dans un stade, on est là pour se faire plaisir et puis pour écouter cette musique magnifique de Bizet.
Comme Caruso, comme Pavarotti, auquel on rendra hommage demain avec le film qui sort de Renaud.
Bah, écoutez, Pavarotti, c'est encore un autre monstre. C'est celui qui m'a donné la force de continuer dans cette profession. Vous savez que souvent on doute, on a envie de jeter les gants, comme on dit en boxe. Et lui, grâce à lui, ben à chaque fois j'avais envie de jeter les gants, je l'écoutais, puis hop, je remettais les gants.
Caruso, Pavarotti, Roberto Alagna, trois chanteurs populaires. On se quitte avec une chanson populaire. Caruso. Qui ouvre l'album,
ben voilà. Nous, on finit Lucho Dalla, oui. Alors, c'est pareil, hein. Là aussi, c'est une chanson que j'ai modifiée, puisque j'ai mélangé avec un air napolitain qui s'appelle Dici d'Angelo Vui, qui a inspiré aussi Lucho Dalla. Et donc, j'ai fait le mélange, puisque Caruso aurait pu chanter cette chanson. Et là, je crois qu'elle s'intègre dans ce disque. Et je me dis, voilà, dans cette version-là, peut-être que Caruso l'aurait chanté aussi.
Merci Roberto Alagna d'être venu ce matin sur France Musique. Caruso 1873.
C'est la date de naissance.
Vous, c'est 1963.
C'est ma date de naissance.
Le disque commence par cette plage et nous, on se quitte avec. Merci beaucoup.
Merci à vous.
E tira forte il vento
su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto. Poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Che voglio ben assai, ma tanto, tanto bene sai. E una sciolio sangue di indebbene. Vide le luci in mezzo al mare, pensò alle notti là in America. Ma eran solo le lampare e la bianca scia d'un'elica. Sentì il dolore nella musica, si alzò dal pianoforte. Ma quando vide la luna uscire da una nuvola, gli sembrò più dolce anche la morte. Guardò negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. Poi all'improvviso uscì una lacrima che credette di affogare. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sai. Diventare un altro, ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo.
Caruso, la chanson de Lucio Dalla qui ouvre le disque Caruso 1873, nouvel album de Roberto Alagna, l'Orchestre National d'Île-de-France dirigé par Yvan Cassar. C'est un disque Sony qui paraît ce vendredi, un choix France Musique. Et je vous rappelle que Roberto Alagna chante Don Carlo de Verdi à l'Opéra Bastille à Paris en ce moment, une production enregistrée par nos micros qui sera diffusée le 14 décembre. Roberto Alagna sera également l'invité de Benoît Dutertre le 16 novembre.
À réécouter sur francemusique.fr.